Vous écoutez
RMC.
RMC. Les gens doivent arrêter d'avoir peur. Le foot, ça se joue sur un terrain. Il faut arrêter d'avoir peur.
C'est pas la danse classique quand même. Je suis désolé. Il y a des coups, quelquefois, il n'y a rien de méchant.
Je dois juste dire à notre supporter. Scuse.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot. Timothée Mémon.
Bonsoir à tous, bienvenue dans l'After, c'est jusqu'à minuit, 2 heures d'After. Aujourd'hui, pour faire le tour de l'actualité footballistique, on va vous parler, je vous l'ai dit, de Metz, de Plovdiv, de Lyon ou encore de Toulouse. On jouera tout à l'heure, il y aura le Mercato Show.
Avec le début de ton programme.
Metz, Plovdiv, ça te fait rêver, ça ne m'étonne pas de toi.
Je dis pas de mal de Metz, Denis. J'ai l'impression qu'on va faire la radio en noir et blanc.
À 23h20, on voyagera donc en Bulgarie pour découvrir Plovdiv. Wilfried Niflor sera avec nous, il a joué en Bulgarie, au Litex. Lovetch, il va décrypter avec nous le niveau de ce championnat. 22h40, Angie Luata viendra nous lister les transferts du jour. À 23h, on parlera de l'OL. À 23h20, on reviendra sur Toulouse, où va le TEF année après année. On est toujours plus inquiet en début de saison. Et ce soir, pour nous accompagner, un homme.
Et puis là, tu repars.
Un homme qui s'est vu retirer son invitation à la fête du livre de Saint-Etienne, Daniel Riolo. Daniel, bonsoir.
C'est vieux ce système.
Eh oui, c'est vieux. Et c'est vieux aussi, un homme qui a marqué son plus beau but peut-être avec les Girondins de Bordeaux à Saint-Etienne, Ludovic Obraniak.
C'est vrai.
Magnifique lucarne 2013-2014. Mmh.
Qui comptait pour rien en plus, puisqu'on perdait 2-0 et que je le mets à la 92e minute.
C'est peut-être pour ça que c'est peut-être
très beau
encore
but plus
beau.
Pour rien.
Non, pas vraiment.
Quand même.
Pas vraiment.
C'est souvent relâché qu'on met les plus beaux buts. En tout cas, avant tout cela, on va vous parler de Metz. Présentation d'un promu, ça nous tient à cœur depuis le début de cet été et de cette émission. Vous parlez de ces équipes, on aura tout le temps de parler de Lyon, de Paris, de Marseille. On va en parler, en reparler. On voulait vous parler aussi de ces équipes qu'on appelle sans condescendance, mais avec affection, les petites équipes de notre Ligue 1. Aujourd'hui, zoom donc sur le Messin pour en parler. Vincent Ognon est avec nous, entraîneur de Metz. Pardon. Bonsoir Vincent.
Bonsoir.
Bonsoir Vincent.
Bonsoir. Merci d'être avec nous Vincent Ognon. Alors Metz, c'est un promu, un petit de cette année, néanmoins une équipe historique de la Ligue 1 qui a connu pas mal de descentes, d'ascensions ces dernières années. Comment éviter cet écueil à nouveau, cet ascenseur qui parfois plombe un petit peu l'histoire de ces dernières années du FC Metz?
Écoutez, tout d'abord, essayer de faire mieux que les fois précédentes. Ça passe déjà par... pour nous, en tout cas, par une forme de continuité par rapport à la saison passée, parce qu'on a un groupe très jeune. Et la saison passée, on a fait une saison pleine, 81 points. C'était une très belle saison, donc on a des bases solides avec un groupe perfectible, jeune, certes, mais qui va progresser. Et voilà, on a ces joueurs-là, on a apporté quelques recrues, quelques retouches, et avec ça, on espère évidemment atteindre notre objectif.
Justement, Metz a obtenu énormément de points la saison passée. On est presque tenté d'estimer que c'était une équipe de Ligue 1 qui évoluait en Ligue 2. Est-ce que cela vous donne des certitudes, ou alors est-ce que tout est remis à zéro avant le début de ce championnat?
Non, on a à la fois une forme de continuité qui nous donne un peu de certitude par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire dans le jeu. Mais en même temps, forcément, comment les jeunes joueurs qui vont découvrir la Ligue 1 vont se comporter, comment l'équipe elle-même va évoluer en ayant forcément des résultats différents de ceux de la saison passée. C'est ces réponses-là que le championnat nous donneront. Voilà, ces réponses-là, on les attend. Mais voilà, on a une forme de... On est assez tranquille parce que la saison passée, il y a des acquis. Voilà, il y a des acquis et on espère avoir bien pioché au niveau du recrutement.
Vous êtes content
avec
de ça, de l'effectif
encore qui vont progresser tout au long de la saison, on l'espère. Parce que, je le répète, le groupe dans son ensemble est très très jeune.
Vous êtes content de l'effectif, des cases arrivée-départ et de ce que ça donne à l'arrivée pour démarrer en Ligue 1? Vous êtes satisfait? Vous avez, avec vos moyens, bien sûr, ce que vous vouliez?
Bah oui, à peu de choses près, c'est quasiment terminé. On n'est jamais à l'abri d'un départ. En tout cas, on voulait conserver une ossature. Ce qui a été fait, voilà, on a eu un apport déjà au milieu de terrain, un apport au poste de latéral droit qui était, on peut embouteiller la saison passée, des joueurs qui sont partis qui étaient en fin de contrat, on a eu la règle de Fabien Santonze au milieu de Kevin Eldoran, Thierry Ambrose devant, voilà, notamment, mais comment vous dire, on est plutôt satisfait et on a prolongé Habib Diallo par exemple, c'était un signe fort parce que c'est un garçon qui avait 26 buts la saison passée et nous le FC Metz avec ses moyens. Voilà, si on perdait Abid Diallo, il aurait fallu dépenser quasiment la totalité de son transfert pour reprendre un joueur dont on n'est pas sûr de son adaptation au club, alors que là, en conservant Abid Diallo, par exemple, on a un joueur qui a mis 26 buts la saison passée dans un bon championnat de Ligue 2, un joueur qui est à peine 24 ans et qui a encore beaucoup de marge, qui va découvrir, qui travaille défensivement, qui marque des buts, qui a un bon jeu de tête. Voilà, on a des certitudes en faisant des choses comme ça, en prolongeant Marvin Gakpa, en prolongeant Farid Boulaya, parce que ce sont encore des jeunes joueurs. Et qui ont, voilà, c'était des signes, c'était quasiment du recrutement déjà de conserver ces joueurs-là.
Comment on passe, et comment vous en tant qu'entraîneur, et comment on prépare le groupe psychologiquement, passer de, bah, on est l'équipe vedette, celle qui met des buts, celle qui gagne, celle qui est, quand elle rentre sur le terrain, grosso modo, bah, on s'attend à ce qu'elle gagne, à la petite équipe contre justement tous les autres, contre qui tous les autres vont vouloir marquer des buts, mettre des points, et qui doit s'arracher pour rester dans le championnat dans lequel il évolue maintenant.
Eh ben, au quotidien, régulièrement, en parlant, quand on s'adresse aux joueurs, on glisse des choses qui vont changer, mais la saison passée, on a rencontré des équipes de première division en coupe, et on s'y est déjà préparé.
Ah, ça, c'est une base de travail, ça, les matchs de coupe contre les gros?
Non, parce que on tournait tout ça, mais dans le discours qui revenait, évidemment, ce sont des choses différentes. C'était quand on jouait quand on allait jouer à Monaco en Coupe de France. C'était forcément, c'était nous le petit, alors que tout le championnat, on a été considéré comme un gros. Mmh. Voilà, parce qu'on a été en tête du début à la fin du championnat. Donc c'est vrai que c'était finalement, le fait d'être le petit, c'est pas forcément un handicap. Mais c'est un groupe, en même temps, la saison passée, qui a été assez linéaire dans ses émotions, qui s'est jamais enflammé dans les bons résultats et dans les quelques périodes où on n'a pas gagné sur trois matchs, on va dire. C'est jamais découragé non plus. C'est un groupe assez linéaire au niveau des émotions qu'on avait la saison passée. Et comme la majorité est encore là, j'espère que ça nous permettra de garder une forme de confiance, de continuité, surtout dans le travail. Voilà, une forme de continuité dans ce qu'on cherche, dans ce qu'on veut mettre en place. Et puis évidemment, quand on est promu, il faudra quand même avoir du culot, de l'enthousiasme, beaucoup, beaucoup de fraîcheur. Et ça, c'est important.
Justement, Vincent Ognon, entraîneur du FC Metz, est avec nous. Il y a 10-15 ans, une équipe qui montait avait souvent tendance à bétonner. Depuis quelques saisons, on a vu des petites équipes, comme on les appelle, avec une philosophie nettement plus dans la création de jeu, se dire le maintien passera par le jeu.
Carrément, qui n'ont pas peur, genre voilà. Nîmes l'année dernière.
Exactement, qui arrivait, Nîmes, Dijon pendant un certain nombre de saisons.
En disant, j'ai pas peur, rentrez-nous dedans, on est là pour vous rentrer dedans aussi. Et t'as cité d'autres équipes qui carrément ont dit, on change pas, on jouait avant, on continue de jouer.
Et quelle sera la philosophie de Metz cette saison alors?
Eh ben, la continuité de la saison passée. Bien évidemment, c'est très bien. La saison passée, je pense qu'on était l'équipe qui avait le plus de possession, quasiment, il me semble. On sait très bien que cette année, ça ne sera pas le cas, qu'on aura beaucoup moins. Mais quand on aura le ballon, il faudra savoir l'utiliser. Donc, le projet qu'avait construit Fred Antonetti en début de saison passée, c'était d'être capable de tout faire, à la fois d'être capable de défendre quand le match l'exige, mais aussi de créer ou de faire du jeu quand en face il y a des équipes un peu plus regroupées, et en tout cas essayer de proposer des choses, de ne pas jouer petit bras, encore une fois d'être ambitieux, voilà, plein de dynamisme, plein de vie. Voilà, si on peut le faire, bien évidemment qu'on le fera. Voilà.
Avant de rejoindre Jérémy et Paul, deux auditeurs qui nous ont appelés au 32-16, les Messins par le Thomessin, Ludovic Obraniak a la parole.
Bonsoir Vincent.
Salut Ludo.
Non, moi je voulais savoir un petit peu, parce que c'est une saison particulièrement importante pour le FC Metz, dans le sens où pas cette saison mais la prochaine, il est primordial de rester en Ligue 1 pour prendre le bon wagon des droits TV. Il y a aussi la rénovation du stade. Il y a le centre d'entraînement qui est fini ou pas loin de l'être, j'ai l'impression. Donc, est-ce qu'il y a une pression supplémentaire du board sur vos épaules? Et puis, je voulais savoir ce qu'il en est un peu. On a toujours eu l'image d'un club formateur. On a sorti des belles pépites et des grands joueurs. Qu'en est-il par rapport à ça, par rapport à justement notre filière au Sénégal et plus précisément aussi en local. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir émerger de jeunes joueurs cette saison?
Alors, tout d'abord, pour le premier point au niveau de la pression, tous les clubs sont au courant, évidemment, et ouais. Tous les entraîneurs savent que les droits télé seront revalorisés la saison prochaine, et donc que le maintien cette année est extrêmement important. Néanmoins, voilà, il n'y a pas spécialement de pression supplémentaire. Il y en a naturellement, en tout cas dans ce métier-là, il y en a naturellement, Ludo. Voilà, pour ça. Ensuite, au niveau des infrastructures, c'est vrai que le FC Metz s'est lancé dans un projet très ambitieux. Voilà, il y a la rénovation du stade qui a débuté, donc on va jouer avec une tribune en moins quand même pendant au moins 12 à 18 mois, je crois. Donc ça, c'est un petit handicap. Mais Frescati, qui n'est pas encore complètement terminé, en tout cas, est déjà opérationnel pour nous, les pros. Donc on a déjà un outil de très haut niveau. Et quand l'ensemble du site sera terminé, ça sera franchement, si viens quand tu veux, tu verras ça.
Je serais ravi de venir vous voir.
Exceptionnel. C'est déjà aujourd'hui très très bien, mais à terme, quand il y aura tout le centre et le bâtiment définitif pour les pros, ça sera un centre d'entraînement de très très haut niveau. Voilà. Et sur le dernier point, sur la formation. Évidemment, on a toujours nos jeunes de génération foot, voilà, qui arrivent tous les ans. On en a qui arrivent, et ça c'est bien. Il y a des joueurs de qualité, hein, voilà. Il y en a eu par le passé, Ismaïl Assar, Abdi Diallo et Ibrahim Agnan, pour ne citer que. Voilà, il y en a qui arrivent tous les ans. Il y en a deux, trois qui viennent. Voilà. Alors certains sont prêtés, ont besoin d'un peu de temps pour s'adapter, franchir une étape supplémentaire. Et pour ce qui est en interne, au centre de formation, il y avait eu un petit trou quand même ces dernières années. Et il y a eu un changement il y a un an. Donc voilà, quand est-ce que ça va arriver? On espère bientôt, mais en tout cas, les prochains qui peuvent arriver, ce sera plutôt du côté de Génération Foot pour l'instant.
Vincent Ognon, entraîneur du FC Metz, est avec nous. Et des supporters, évidemment, messins, nous ont rejoints. C'est le cas de Jérémy. Bonsoir Jérémy.
Bonsoir à tous. Bonsoir coach. Bonsoir.
Alors Jérémy, tu es supporter messin et tu avais une question adressée directement à Vincent Ognon.
Ouais, enfin plus qu'une question, c'est vrai que on a fait un petit peu le tour. Enfin, toutes les questions que j'avais à lui poser ont déjà été abordées par Daniel ou par Ludo. Mais oui, c'est vrai. Je voulais revenir là justement sur le fait que on va avoir des la dernière année en Ligue 1, on avait eu un calendrier à l'entame qui était vraiment très compliqué, où on avait tapé que ce soit Monaco, que ce soit Lyon, que ce soit Marseille, que ce soit Paris tout de suite d'entrée. Là, on va commencer par un derby à Strasbourg. Après, on va enchaîner à Monaco. Je voulais savoir comment ils s'étaient préparés, justement, s'ils avaient fait vraiment attention à choisir les matchs, mais à savoir un petit peu comment se préparer en fonction des différents adversaires de début de saison pour vraiment essayer d'emmagasiner le plus de points possible en début de championnat où on sait que les grosses écuries sont pas forcément prêtes.
Oui, donc écoute, c'est vrai, le calendrier est très difficile au début. Après, moi j'ai l'habitude de dire qu'on a lutté toute la saison, passé pendant 38 matchs, pour les jouer ces matchs-là. Donc déjà on est ravis de les jouer, on va pas se plaindre de les jouer. Voilà, on les joue, on a des matchs difficiles au début, et ben c'est comme ça. Après dire qu'ils sont pas prêts, c'est pas toujours vrai. Il y a Paris, même s'ils seront pas complètement prêts, ils ont déjà joué un match officiel. Strasbourg, ils jouent encore demain, même s'il y aura peut-être un peu de fatigue, ils auront quand même joué trois matchs officiels avant de nous rencontrer. Et ce sont des matchs d'une autre intensité qui préparent certainement mieux que nos matchs de préparation classiques. Voilà, donc nous, on a fait une préparation assez lourde. Nos derniers matchs amicaux ont été assez relevés, ou alors on a joué des équipes sur les premiers matchs de préparation qui étaient en avance sur nous dans la préparation. Donc on espère que ça nous a préparé du mieux possible, en tout cas. Voilà, on a joué un double dernier match contre Valence, qui est une bonne équipe de Bundesliga. Le match d'avant contre Amiens, ça nous a donné un bon aperçu de la Ligue 1, je pense, en tout cas des équipes qui sont dans notre chapeau pour lutter pour le maintien, pour obtenir le maintien. Donc voilà, en disputant des matchs de préparation les plus proches possibles de la réalité, et puis surtout, bah voilà, après il faut saisir notre chance, hein. On aura nos chances. Si on est performant, on a un groupe qui a des qualités, qui est jeune, mais qui a des qualités. Donc si on, c'est à nous d'être performants et d'obtenir des résultats. Mais quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec ce groupe jeune, on a de la marge pour progresser. Et il faudra garder une sorte de calme, de sérénité, de se concentrer beaucoup sur le travail et sur les performances, bien analyser nos matchs, et puis voilà, faire avancer ce groupe.
Ludovic Obraniak voulait rebondir.
Vincent, je sais que tu es un adepte du 4-3-3. Est-ce que justement cette montée en Ligue 1 peut t'amener à avoir différentes options, à transformer un peu ton système, c'est-à-dire soit à t'attendre à, justement, comme le disait Daniel, à souffrir un petit peu plus et être un peu plus bloc bas avec peut-être une défense à 5, ou est-ce que au contraire on pourrait te voir évoluer peut-être en 4-4-2 avec un attaquant qui pourrait tourner autour de d'Habib Diallo? Ça, c'est des choses qui sont envisageables, ou tu vas privilégier plutôt ton 4-3-3?
La base de ce qu'on a travaillé le plus pendant la préparation, c'est le 4-3-3. Néanmoins, il ne faut jamais se fermer les portes. Évidemment qu'on est un effectif où on pourrait utiliser trois défenseurs centraux. Ouais. Voilà, on a deux attaquants aussi qui sont capables de jouer. Après, je veux dire franchement, Ludo, la possibilité de tourner le milieu, d'avoir un joueur en dessous de l'attaquant, c'est... On en parle régulièrement. Voilà. Mmh. Donc, on y réfléchit, on essaie de trouver le joueur le plus adéquat.
Et ça serait un joueur qui pourrait justement venir compléter l'effectif. Tu l'as
peut-être, mais peut-être qu'il est déjà là aussi.
D'accord.
Voilà. Peut-être que Marvin Gakpa, par exemple, peut jouer à ce poste-là.
Voilà. C'est vrai qu'il est talentueux.
Voilà, très talentueux.
Vincent Ognon, entraîneur du FC Metz. On a un autre auditeur qui voudrait vous poser une question, un peu plus une question de fond. Bonsoir, Paul.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, merci de nous avoir appelé au 32-16. Il y a une volonté de ta part d'aller un petit peu plus loin que cette simple remontée. Vincent Ognon est là pour te répondre.
Oui, j'avais vraiment une réflexion, c'était par rapport à... Alors ça m'embête de le dire, mais j'ai suivi ces dernières années, par exemple, le modèle qu'a suivi Strasbourg, c'est-à-dire d'être assez ambitieux, en Ligue 1 et pas seulement de tendre le dos, c'est-à-dire, alors moi je suis assez satisfait de plusieurs choses, le fait qu'on garde l'ossature, un nouveau centre d'entraînement, tout ce que vous avez dit, on a aussi un nouveau préparateur physique, etc. Maintenant il y a aussi des doutes sur le niveau de certains joueurs, sur la stratégie du club qui parfois s'est avérée décevante. Et moi, par exemple, j'aimerais qu'on joue enfin les coupes nationales à fond. C'est-à-dire la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, je pense que c'est possible avec le maintien. Strasbourg nous montrait. Est-ce que là-dessus il y a des réflexions à long terme menées par le club?
Alors sur les coupes, on les a joués à fond la saison passée. Hein. On s'est qualifié à Monaco. On a perdu de peu en Coupe de la Ligue contre Amiens à domicile. Voilà. Alors, on a joué les coupes à fond. Évidemment, on a eu du turnover parce qu'en janvier, sur un mois, on a eu 10 matchs. Donc forcément, ça tourne et ça tombait un peu plus sur les coupes, mais ça nous a pas empêché de nous qualifier à plusieurs niveaux. Donc bien évidemment qu'on jouera les coupes à fond aussi. Voilà, on joue toujours pour gagner. Même quand on fait tourner, on fait pas tourner pour faire tourner. On fait tourner parce qu'on pense que l'équipe qu'on aligne, elle peut remporter le match.
Et Vincent, sur le fait de pérenniser des choses structurelles, c'est peut-être un peu moins votre rôle, mais vous sentez qu'il y a une volonté du club de s'inscrire sur la durée. On a parlé à un an, il y a l'échéance des nouveaux droits télé, mais ça va au-delà. On imagine que Metz veut s'inscrire à 10, 15, 20 ans en Ligue 1. Alors c'est un peu facile de le dire, tout le monde le souhaite, évidemment, mais est-ce que vous sentez qu'il y a une structuration qu'il n'y a peut-être pas eu lors des dernières montées?
Oui, en tout cas, si on reprend sur les dernières montées, par exemple, les saisons difficiles qu'ils ont eues lorsqu'ils sont descendus, sur la dernière, en tout cas, c'était un effectif, voilà, il y avait des joueurs qui avaient joué en Ligue 1, qui étaient confirmés, mais qui étaient très âgés. Voilà. Et on sait bien qu'il n'y a pas de vérité, mais en tout cas, ça avait été un échec. Et donc là, on est dans un vrai centre de continuité avec un groupe globalement jeune, de la marge, des recrutements de jeunes joueurs avec de la marge. C'est pour essayer de les garder un peu et en même temps faire progresser le club au fur et à mesure. Et on sait très bien qu'il y a des joueurs qui risquent de partir, bien évidemment, au fur et à mesure. Mais en tout cas, d'avoir une base de l'effectif qui est amenée à rester un certain temps dans le club pour progresser avec. Mais si j'en reviens d'un point de vue des infrastructures, par exemple, la saison passée, moi je suis arrivé la saison passée, au mois d'août, et le président m'a parlé des projets qui étaient lancés. les projets de lancer, c'était le permis de construire pour le stade, enfin de démolir la tribune et de construire la nouvelle tribune. Le Frescati, c'était déjà lancé, voilà, pour le centre d'entraînement. Et sincèrement, ça, plus la dynamique sportive, ça, on a senti, voilà, ça, l'un entraîne l'autre, mais le fait que les structures soient un chantier aussi important et vraiment déjà lancé, ça insuffle une certaine dynamique quand même. Voilà. Et maintenant, c'est aux sportifs aussi de franchir une étape supplémentaire en se pérennisant en Ligue 1.
Vincent, juste une question un peu plus personnelle. Bien évidemment, votre succès est aussi associé à celui de Frédéric Antonetti. Je voulais prendre un peu de ses nouvelles, savoir comment il allait, s'il était toujours présent au quotidien dans le projet, ou on a vu qu'on n'entend plus trop parler. Je voulais savoir s'il était toujours là.
Il est toujours là, bien sûr. Je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. Voilà, on échange très régulièrement sur beaucoup de choses. Il est toujours là. Régulièrement.
Et ben tu le salueras
ouais,
de ma part.
Oui, j'ai eu tout à l'heure, tu vois. Ouais. Voilà. Mais non, ça va. On travaille, on échange beaucoup. Et ben, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup donné. Hein. Voilà, déjà quand j'étais joueur. Et puis après, quand il m'a fait venir à Metz, la saison passée. Voilà.
Merci beaucoup Vincent Ognon d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très belle saison avec le FC Metz. Ça débutera dès ce week-end en fanfare avec ce derby d'Alsace-Lorraine face à Strasbourg. Ce sera dimanche puisque Strasbourg joue demain contre Plovdiv en Europa League. Et justement, c'est notre prochain sujet. On va en parler dans un instant avec Wilfried Niflor qui a joué en Bulgarie. À tout de suite dans l'after.
Le vrai derby, c'est contre Nantes.
RMC, l'afterfoot, Timothée Mémon.
22h26, c'est l'after, c'est jusqu'à minuit. Si vous nous rejoignez, vous avez bien raison, soyez les bienvenus. On est avec Ludovic Obraniak et Daniel Riolo, supporters strasbourgeois. Appelez-nous, on va parler du troisième tour préliminaire de l'Europa League. Demain, Strasbourg affrontera le Lokomotiv Plovdiv. C'est en Bulgarie, ce sera à 19h30. Plovdiv, 8e du dernier championnat, mais vainqueur de la Coupe, ce qui leur vaut cette place dans les tours préliminaires d'Europa League. 8e du championnat bulgare, oui monsieur. Et nous allons parler de ce club avec Wilfried Niflor. Il a joué 3 ans en Bulgarie pour le Litex Lovech. Il a même été le meilleur buteur du championnat. Bonsoir Wilfried.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous pour venir décrypter un peu ce championnat bulgare. Mais juste avant que tu nous parles du niveau sportif de ce championnat bulgare, on va aller en Bulgarie où Aurélien Tiersin est déjà. Bonsoir Aurélien.
Dober Vecher, bonsoir messieurs.
Salut Aurélien.
C'est local. Il est déjà sur place.
C'est local, il est déjà sur place. Alors, en bref, Aurélien, Plovdiv, c'est où, c'est quoi, ça ressemble à quoi? Fais-nous une petite carte postale de ce joli petit port de pêche qui n'en est pas un d'ailleurs.
Non, parce que c'est en plein centre de la Bulgarie, plutôt au sud, troisième ville, c'est un peu plus de 300 000 habitants. Et c'est assez touristique finalement.
Ah
c'est,
oui
c'est, ouais, c'est assez joli, il y a pas mal de choses. Il y a une grande mosquée, il y a des petits trucs. En fait, c'est la plus ancienne ville d'Europe qui est encore peuplée aujourd'hui. D'ailleurs, les habitants de Plovdiv, on les appelle les Philippopolitains, parce que ça a été conquis notamment par...
Ah, on ne saura pas par qui ça a été conquis. On va essayer de retrouver Aurélien dans quelques instants. Les télécoms bulgares, voilà, c'est ce que c'est. Il faut savoir que c'est quand même à une centaine de mètres de Kavala, une ville qui tient au cœur de Pierre Ducrot. Et vous le savez, il a joué 2 ans là-bas. Et... on est donc pas très loin de la côte grecque. On a retrouvé Aurélien. Alors, par qui a été conquis Plovdiv? On est là, on n'en peut plus. Et on n'en saura pas plus.
Non, c'est mort, la ligne est coupée définitivement.
Difficulté donc avec Aurélien, qu'on remercie, qui sera demain au commentaire de ce match. Ce sera à partir de 19h30. Ce sera évidemment à suivre en direct sur RMC. Alors on va se tourner vers... match de l'année pour Gilbert. On va donc se tourner vers Wilfried Niflor. Wilfried, tu as joué 3 ans en Bulgarie au Litex Lovech. C'est donc une pelouse que tu connais probablement, Plovdiv. Est-ce que tu peux nous donner un élément de comparaison? Le championnat bulgare, le 8e du championnat bulgare, à savoir le Lokomotiv Plovdiv, ça vaut quoi à l'échelle française?
Au jour d'aujourd'hui, je pense que ça doit être à l'échelle de... d'une Ligue 2 moyenne, voilà, donc après avec un public qui est très très nombreux, donc ça peut aussi jouer, mais au niveau de la structure. structure et tout ça. Donc c'est à peu près au niveau de Ligue 2.
Une équipe moyenne de Ligue 2, c'est intéressant. On pensait peut-être pas si haut. Je voyais l'amour de Ludo.
Comment la vie t'a emmené là-bas?
Par le biais de des agents que je côtoyais à l'époque, donc qui avaient des joueurs sur place.
Mais toi, t'étais où en France à ce moment-là?
J'étais à Gueugnon à ce moment-là.
D'accord.
J'étais à Gueugnon, ils sont venus me superviser 2-3 matchs, et sur ces matchs-là, j'ai été performant. Donc, j'ai eu une proposition sportive intéressante, parce que ça jouait le haut de tableau. Et puis,
financièrement, ça valait ouais. Comme si tu jouais en Ligue 2 en France.
Ouais, exactement, c'est ça.
Ouais. Ouais. Mmh. Ouais.
Alors, on rappelle, la Bulgarie s'est coincée entre la Grèce, la Roumanie, la Turquie. On serait donc tenté de penser que c'est une nation avec un football peut-être spectaculaire, tourné vers l'avant, comme ça a pu être le cas, en tout cas, à une certaine période dans ces pays-là. Est-ce que c'est la philosophie de jeu, ou alors est-ce que Strasbourg doit s'attendre à un bloc bas qui va essayer de pousser Strasbourg dans ses retranchements, de prendre le moins de buts possible et puis d'essayer de passer un contre?
Moi, ça joue, disons, offensif, parce que quand on regarde leurs 4 matchs de championnat, ils ont quand même marqué 9 buts, et puis bon, après, ensuite, ils en encaissent quasiment autant, ils en ont encaissé 7. La même chose au niveau des tours premières en Coupe d'Europe, ils marquent énormément, mais ils en encaissent autant, donc. Après, ils vont être, c'est sûr qu'ils marquent beaucoup de buts à domicile, parce qu'ils sont, il y a un public qui est vraiment derrière eux. Il y a un stade qui contient entre 10 000 et 13 000 spectateurs en place, et il y a, le stade est plein, donc ça va amener une chaude ambiance. Donc ils sont vraiment, vraiment poussés par ce public.
Mais blague à part, est-ce qu'ils ont vraiment une chance? Tu penses sincèrement que cette équipe a une chance de perturber le Racing? Alors sur un match, c'est peut-être possible, mais sur deux matchs?
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Sur un match, je pense que c'est... C'est possible, mais après sur une confrontation aller-retour, sachant qu'en plus le retour il est à Strasbourg, s'il négocie bien sur ce premier match, moi je pense que Strasbourg a vraiment les moyens pour pouvoir se qualifier.
On rappelle quand même que c'était il y a pas mal de temps maintenant.
Alors il va falloir que tu ouvres ton micro, voilà.
Pour ceux qui nous écoutent, tu n'étais pas en Bulgarie l'année dernière ou il y a 2 ans, c'était quand même 2011 que tu es parti
donc,
de là-bas.
Ouais, c'est ça exactement.
T'as fait 3 ans.
Je suis encore toujours
dans
le championnat, là-bas. Donc.
Et tu fais quoi maintenant?
Maintenant, je suis coach adjoint à Cholet.
À Cholet. D'accord.
Alors, on a retrouvé Aurélien Tiercin qui va pouvoir nous plonger un peu dans l'ambiance de Plovdiv. Wilfried nous parlait de chaude ambiance. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre demain pour cette équipe de Strasbourg, Aurélien? Et puis, tu as assisté à l'entraînement et tu as peut-être quelques informations sur le groupe.
Ouais, alors déjà sur le groupe, Kenny Lala est de retour dans le groupe de Strasbourg. Après, on ne sait pas encore s'il va débuter dans le 11. C'était Mohamed Simakan, le tout jeune joueur originaire de Marseille, qui était titulaire notamment à Haïfa. Matt Sels qui était sorti à la mi-temps.
Décidément. De toute façon, ça va être comme ça. Ça pour suivre le match, ça va être compliqué. Hein.
On aura des vidéos. On t'entend, Aurélien. Non.
Ah ok, donc Matt Sels avait une gastro, il a dû sortir à la mi-temps du match contre le Maccabi, il est bien dans le groupe, normalement il devrait être titulaire demain. Il manque simplement Anthony Cassie qui était pris avec l'équipe de France jeune pendant l'été, et Lebo Motiba qui était pris par la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Afrique du Sud. Sinon, tout le groupe du Racing est au complet. Après, pour l'ambiance du stade, c'est clairement un stade champêtre. Là voilà, c'est les vrais tours préliminaires de la Coupe d'Europe, il y a 13 800 places. C'est un stade assez chaud, a priori les supporters du Lokomotiv sont connus pour être un petit peu... turbulent, disons. Il y a deux clubs à Plovdiv, deux clubs principaux, le Botev et le Lokomotiv. Le Lokomotiv, c'est le club du peuple, de la classe ouvrière plutôt, et le public du Lokomotiv devrait pousser assez fort. On attend un stade à guichet fermé, donc 13 800 supporters demain au stade Lokomotiv contre le Racing. Et effectivement, là, il y aura, la pelouse est pas aussi belle que celle qui était au stade Sami Hofer du Maccabi Haïfa. Ça pourrait être un petit piège quand même pour le Racing Club de Strasbourg, mais Thierry Loret, bon voilà, c'est un petit discours langue de bois, et il s'attend à une belle équipe de Bulgarie, parce qu'il nous a ressorti le France-Bulgarie de 93. Il se méfie du football bulgare.
Justement, Aurélien, la passe décisive. On écoute Thierry Loret.
Il y a des gens qui ont peut-être négligé un peu aussi le football bulgare à une certaine époque. Et puis, ils s'en sont mordus les doigts. Moi, le football bulgare, je l'ai connu encore même avant 93. Et je sais pas, Monsieur Foot, Thierry Roland et compagnie, ça parlera à certains anciens. Et donc, c'est un football qui a toujours posé des problèmes au football français. J'ai beaucoup de respect pour ce football parce que il y a toujours eu des joueurs de qualité. Vous allez me dire, ça date, ouais, mais ça prouve que dans ce football-là, dans ce pays-là, il y a la capacité à avoir de très très bons joueurs et de bonnes équipes.
Voilà, messieurs. Est-ce que les équipes
auxquelles il fait allusion, ouais, il y avait des joueurs qui jouaient dans des grands clubs européens. Ouais. Ça n'a absolument rien
à
voir.
En espérant qu'il n'y ait pas le fils de Kostadinov qui voilà. joue dans l'équipe d'en face.
Et les journalistes bulgares là-bas disent qu'il y a à peu près zéro chance de
faire. C'est vrai quand on se replonge, quelle équipe? Trifon Ivanov, Leshkov, Stoïkov.
Trifon Ivanov, qui valait des points ne serait-ce que par sa coiffure.
Le gardien sans
chance. D'ailleurs, Plovdiv, c'est la ville de Risto Stoïkov.
Plovdiv, ville de Risto Stoïkov. Avant de te laisser, Aurélien, qu'est-ce qu'on mange à Plovdiv?
On mange pas mal de plats turcs parce que la Turquie c'est pas loin, il y a une grosse influence ottomane, enfin ex-ottomane et turque aujourd'hui, donc on mange turc et demain midi je goûterai la cuisine bulgare.
Eh ben on attend ça avec impatience. Merci beaucoup Aurélien d'avoir été avec soirée. Nous bonne soirée et évidemment rendez-vous demain à 19h30 pour le match. Un dernier mot avec Wilfried Niflor qui a joué pendant 3 ans en Bulgarie et qui a été meilleur buteur du championnat bulgare. Wilfried, clairement Strasbourg est favori, on l'a dit. Justement, concernant cette ambiance, ces supporters très chauds du Lokomotiv, est-ce que c'est une donnée qui peut faire basculer la rencontre, qui peut faire sortir un peu les Strasbourgeois de leur match?
Ouais, c'est possible, hein, parce que c'est vraiment une ambiance particulière avec un public qui est très agressif et qui encourage beaucoup. Et voilà. Après, je pense que les joueurs ont l'habitude de ce genre de public, donc il faudra faire abstraction à ça et puis qu'ils jouent leur football, et je pense qu'il derrière il y aura pas de surprise, tout simplement.
Wilfried Niflor, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous avez joué pour le Litex Lovech pendant 3 années. Merci d'être venu décrypter avec nous la qualité du championnat bulgare. On va parler un tout petit peu de Strasbourg tout de même avec Mathieu qui est un supporter strasbourgeois et qui estime que là il y a véritablement obligation de passer contre Plovdiv. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir à tous.
Salut Mathieu. Le vrai match, c'est contre Francfort.
Voilà, Mathieu. Ouais. Mathieu, j'allais y venir. La question, c'est la suivante.
Vous ne sentez pas obligé de passer, ça sera trop dur derrière.
Plovdiv, on a l'impression effectivement que c'est une formalité ou à minima une obligation pour Strasbourg. Et ensuite, il pourrait y avoir l'Eintracht Francfort. Le supporter que tu es perçoit cet enchaînement comment?
Déjà, jouer ce match de demain soir sérieusement et puis faire un bon résultat avant de penser à Francfort. Il y a un match aller, il y a un match retour. Sur le papier, normalement, il n'y a pas photo. Si on commet pas d'erreur, si on prend pas le match par-dessus la jambe et qu'on est sérieux, ça doit passer sans aucun problème, à condition de respecter l'adversaire et puis justement de peut-être pas trop penser à Francfort pour sortir de... Faut pas sortir de la priorité du match de demain. Hein. C'est pas pour faire la langue de bois. Normalement, ça passe sans aucun souci, mais faut peut-être pas trop se projeter. Déjà faire le nécessaire demain, assurer la qualification et après, on aura tout le temps de penser... à préparer ce match contre Francfort qui se profilerait, puisqu'en théorie, Francfort va passer aussi de son côté.
Mathieu, c'est un excellent discours de coach que tu nous tiens là, mais être supporter, c'est se projeter, c'est faire des plans sur la comète, c'est rêver de quelque chose. S'il y a Francfort qui se présente ensuite,
le feu à l'aller le retour, ça va être un gros match de Coupe d'Europe.
Ça va être un gros match de Coupe d'Europe, mais est-ce que tu as des craintes? Est-ce que ce serait terrible pour les supporters strasbourgeois de voir finalement l'aventure s'arrêter trop tôt?
Vaut mieux les prendre cette année que la saison dernière. Hein. Ils sont quand même perdus.
Terrible,
Ljubovic et Sébastien Allaire, donc il y a peut-être un coup à faire. Hein.
Mathieu?
Terrible, peut-être pas terrible. Je te dirais que de toute façon, à partir du moment où tu gagnes la Coupe de la Ligue et tu sais que tu as 6 matchs à passer pour éventuellement aller en phase de poule des Ligues Europa, tu te dis que si tu arrives, surtout à notre échelle, à notre niveau, après notre absence en Coupe d'Europe depuis des années, tu te dis que de toute façon, ce sera que du bonus.
Bah oui.
Moi, à titre personnel, en tant que supporter, peut-être un peu trop sage, moi, j'estime qu'il est trop tôt pour nous d'aller se présenter dans une Coupe d'Europe. Néanmoins, elle s'est présentée cette année par le biais de la victoire en Coupe de la Ligue l'année dernière. Voilà, Francfort, ça peut être une confrontation magnifique aussi bien sur le terrain que surtout en tribune. Hein. On est presque voisins. Moi, personnellement, j'y crois pas beaucoup, même si j'ai énormément envie de réussir un coup et d'éliminer cette équipe de Francfort. Ce serait franchement fantastique. Mais je pense que entre des exploits en championnat et des exploits en Coupe d'Europe, il y a quand même, c'est un autre niveau. Et je pense que Francfort, même avec des départs, est quand même mieux préparé, mieux armé pour passer. Et elle sera clairement favori. Et pour moi, se faire éliminer contre Francfort, ce serait pas forcément une contre-performance.
Oui, mais il y a une super, il y a une grosse excitation d'aller jouer un match comme ça depuis le temps que Strasbourg
attendait
ça.
Ah oui, il y aurait l'excitation. Ah oui, je te rejoins totalement, Daniel. Oui, bien sûr. En tribune, ce serait le feu. Je pense que dans le bon sens, on verrait un beau match de foot et surtout une belle ambiance en tribune. Compte tenu de ce qu'on peut voir des fois des comportements de supporters, je pense que ça donnerait une belle leçon de supporterisme des deux côtés dans les deux stades et ce serait une confrontation magnifique. Et oui, j'en ai envie. Après, de là, faire un résultat et y aller, c'est encore une autre histoire.
Non, mais
histoire,
ça, tu verras, ça, on n'en est pas là. Déjà, il faut aller sur ce match, ça va être génial.
Ah, Mathieu, tu préfères aller en phase de groupe avec Strasbourg en Europa League ou remporter le derby face à Metz?
Déjà remporter le derby, sincèrement, et me pérenniser en Ligue 1. J'aimerais voir mon club évoluer en Ligue 1 les années à venir. Alors, si à choisir, je sais pas comment peut se dérouler la saison, mais quand on voit la gestion des clubs français les dernières années qui évoluent, qui sont pas prêts à évoluer sur les deux tableaux, qui sont en Coupe d'Europe et qui font des saisons pourries en championnat, ben je te dirais que moi, ayant le sentiment qu'on n'est pas forcément prêt à jouer sur les deux tableaux, je préférerais encore à la limite gagner le derby, me maintenir en Ligue 1 et jouer les Coupes d'Europe quand elles se présenteront les années à venir. Quand on aura un peu plus de budget, quand on pourra
prévaloir une équipe un peu mieux. Mathieu, la Coupe d'Europe avant tout, laissez-nous, on va galérer nous en plus cette année, laissez-nous le derby, et puis après vous pouvez lancer la saison, vous êtes tranquille, vous allez vous maintenir tranquillement.
Le derby, il le faut, on a fait trop de mauvais résultats contre Metz les dernières années, on peut pas, vous êtes déjà venu faire un résultat à la Méno, on en a pris 3 ou 4 il y a 2 ans contre vous alors que vous étiez dernier du championnat. Non, cette année le derby il est pour nous, il n'y a même pas à discuter.
Tu sais que Daniel a dit que c'était un faux derby.
Daniel a dit que c'était un faux derby.
Ouais, il a dit que c'était un faux derby.
Alors, est-ce que Daniel, il connaît l'histoire de ce derby entre Strasbourg et Metz, le Duc de Lorraine et l'animosité qu'il peut y avoir entre les Lorrains et les Alsaciens?
Non, mais oui, bien sûr.
Merci beaucoup Mathieu d'avoir été avec nous. On souhaite de passer une très belle saison et de kiffer un maximum la Coupe d'Europe avec Strasbourg. On ne sait pas quand est-ce qu'elle reviendra. Donc profites-en un maximum. On revient dans un instant dans l'after. Ce sera pour le Mercato Show avec Antti Luata.
Attention Kostadinov,
et but.
Oh là 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 là.
C'est la fin.
RMC, l'Afterfoot, Timothée Mémon.
22h43, c'est l'after et tout de suite on est avec Cheb Andy Luata. C'est le Mercato Show.
C'est combien?
30 000.
Attends, je vais te le manger.
Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, allez, laisse tomber, fais-lui ses 30 000, c'est un con.
Comment dois-je t'appeler Duc de Mémon?
Bah écoute, comme tu le sens. J'espère que t'as des tintines. Ouais. Hein,
non, mais avant que tu commences,
il y a beaucoup d'argent.
Petite précision sur cette histoire de derby. Rivalité, c'est pas derby, c'est pour ça. Parce que les Messins, ils ont toujours dit le derby, c'est contre Nancy. Enfin, je veux bien déjà même région, alors que normalement, c'est dans la même ville.
Ouais,
après, qu'il y ait une vraie, grande rivalité entre Strasbourg et Metz, ça, oui, bien sûr. Comme il peut y avoir entre Paris et Marseille, il y a une rivalité, mais c'est pas un derby. L'expression derby, je trouve bien trop galvaudée en France, où on la met à toutes les sauces. Derby de l'Atlantique, derby de la Garonne, derby de machin truc. Des fois, on l'utilise même pour des clubs où il y a une mini rivalité, parce qu'il y a eu 2-3 matchs à une époque. Là, en l'occurrence, oui, Strasbourg-Metz, il y a une vraie rivalité. Mais c'est pas un derby au sens propre du terme.
Parfois, comme on s'ennuie un peu, ça aide à promouvoir un peu certains
matchs. Mais attends, c'est clairement ça. Les Lorrains et les Alsaciens ont 2-3 comptes à régler.
Si tu veux, un Bordeaux-Toulouse, faut arriver à le vendre, tu vois. Donc, derby de la Garonne, du coup,
c'est pas dans notre culture. En fait, il y en a pas. Real Barça, c'est pas un derby. C'est pour ça qu'ils appellent ça un classique. C'est autre chose. C'est une rencontre que tout le monde attend tous les ans.
Merci pour cette précision sémantique. C'est important. Voilà. On est à 19h16 de la fin du mercato en Angleterre. Les clubs anglais n'auront plus le droit d'acheter à partir de demain 18h. Donc, on commence avec un petit spécial Premier League, Angie.
Ouais, avec un focus sur Tottenham. C'est peut-être le club qui agite le plus le mercato en Angleterre. Deux pistes chaudes ces dernières heures, ces derniers jours. Dybala, Coutinho, vous en avez tous entendu parler. Et ben, finalement, ça devrait être Lo Celso à la place. Sur Dybala, il y a eu accord entre la Juve et Tottenham.
Mais
70 millions d'euros.
Mais
l'argent. le salaire, ça lui allait absolument pas à Dybala. Déjà, on a vu que à Manchester United, il n'avait pas trop envie.
Il se passe quelque chose autour de Dybala.
T'as pas l'impression que simplement qu'il a pas envie d'aller en Angleterre?
T'as pas l'impression qu'il pourrait aller ailleurs?
Et alors où?
T'as pas l'impression qu'il est un petit peu casse-bonbon, le Dybala, depuis le début de
la saison? T'as pas l'impression qu'il a envie d'aller au PSG?
T'as pas l'impression qu'il a envie de voir la Tour Eiffel?
C'est clairement ce qu'on a entendu dans ce que tu dis, ouais. Potentiellement, en tout cas, il a refusé les
ou
deux.
Ou en tout cas, qu'on lui laisse entendre clubs. Que si on fait partir la Diva, il y a une place pour lui. Et que donc, il faut retarder un peu l'affaire. Donc, Tottenham plutôt sûr, parce que j'ai l'impression qu'ils veulent le
Tottenham
joueur
plutôt
créatif.
Plutôt sûr. Ouais, ils veulent le joueur créatif, ils veulent le milieu offensif. Il y a eu Coutinho aussi, complètement mort. C'est le joueur aussi qui aurait refusé. Il y avait une option de prêt avec option d'achat, prépayant avec option d'achat finalement. Rien du tout de tout ça.
Coutinho
et la troisième
à Tottenham,
piste.
Je l'imagine parfaitement, quoi. J'aime beaucoup.
Et Lo Celso, tu l'imagines à Tottenham?
Aussi. Non, mais Tottenham, par tradition, a toujours été une équipe qui joue au foot, encore plus maintenant avec Pochettino. Donc, ouais, j'imagine parfaitement ce genre de mec-là. Mais alors, ça veut dire que Lo Celso va partir.
Eriksen qui va n'ira pas à Manchester United. J'allais vous en parler plus tard, mais a priori, Eriksen, ça ne devrait pas aller à Manchester United. Donc, ce serait Lo Celso qui arrive à Tottenham.
Il va pas à Manchester, c'est-à-dire qu'il y a la place de Pogba n'est pas comblée, et donc Pogba ne part plus. Voilà. Cette fin de mercato en Angleterre me fascine.
Donc Neymar va aller au Real? Parce que Pogba ne va pas au Real.
Ça n'a rien à voir avec l'Angleterre, mais je veux bien que tu le places quelque part si t'as envie, mais c'est étonnant quand même.
On va jouer au bonneto tout au long de cette soirée.
Juste au poste de latéral gauche, j'ajoute un mot sur Tottenham. Ryan Sessegnon qui va arriver de Fulham pour 27 millions d'euros.
On reste à Londres. Arsenal cherche un défenseur et ça provoque quelques remous.
Ouais, les remous, je vous en parle tout de suite. C'est David Luiz. Information de l'équipe qu'on a appris cet après-midi. David Luiz qui aurait zappé l'entraînement aujourd'hui. Et qui aurait très envie d'aller à Arsenal. Sauf que à Chelsea, il n'y a plus énormément de défenseurs centraux. Donc ça paraît compliqué pour lui de quitter Chelsea. Et ce serait un petit début de clash à suivre. On verra si demain se confirme ou pas.
Ils ont toujours l'interdiction de
recruter. Ils ont toujours l'interdiction de recruter jusqu'à la fin de ce mercato au moins. Sur Arsenal, donc il y a eu le départ de Koscielny. Il y a cette volonté à Arsenal de recruter en défense. Ça serait très, très avancé, voire complètement bouclé pour Daniele Rugani de la Juventus Turin.
Ouais, ouais.
Il a 25 ans, il a joué 15 matchs seulement en Serie A l'année dernière.
C'est pareil, hein. Déjà j'étais étonné qu'un jeune comme Keane parte, ils font partir un autre jeune, Rugani.
Peut-être un peu bizarre, moins jeune, peut-être très envie de jouer aussi Rugani.
Oui, le fait qu'ils aient pris de Ligt, ça va limiter
place
pour lui. Ouais, je
alors
comprends.
Que Sarri est plutôt réputé pour sortir de... À Naples, il avait sorti quelques jeunes.
Ouais,
quand même,
là, il se retrouve de toute façon avec des mecs à faire jouer. Il a de Ligt, Chiellini et Bonucci sont pas encore morts, même s'ils vieillissent. Rugani a moins de place. Ouais.
Rugani prêt avec option d'achat 40 millions d'euros.
Angie, on parlait de Manchester United. Eriksen ne devrait pas signer. En revanche, il pourrait y avoir un départ. Et un départ dont on parlait hier.
Et dont on parle depuis un mois d'ailleurs. Ah. Celui de
Romelu Lukaku. Le dossier
Sky Italia qui est
le moins de 20
Ludo, c'est pour toi.
Attention que j'étais le lanceur d'alerte sur cette affaire.
Pour la première fois, Sky Italia est très affirmatif.
Noden Omraniak.
Sur cette histoire, Lukaku va aller à l'Inter.
Est-ce que les 500 000 euros d'amende, ils sont inclus dans le transfert ou pas?
En tout cas, 83.
Est-ce qu'on dit quelque part que l'amende de Lukaku, c'est dû à l'intervention de Ludo?
Ben je
pense que l'amende, elle est pour lui.
Et surtout, est-ce que tu peux négocier un pourcentage?
L'amende, c'est pour toi, Ludo. Si Lukaku a pris une amende, c'est de ta faute. Donc toi, ça passait une aperçue, cette affaire.
Ce qui s'est offusqué. J'ai même pas dit le club, du coup, à l'Inter.
Mais non, parce que du coup, ça a précipité son départ, tu vois. Donc, il va
à compter, il en surkiffe de Lukaku.
Ouais. 83 millions d'euros bonus compris.
83 millions pour Lukaku,
ça paraît dingue.
Là, ça me rend ouf, mais bon.
En revanche, côté City et Liverpool, c'est plutôt calme.
C'est plutôt calme. En même temps, il y a eu de très bons résultats. Donc, on se dit, pourquoi pas aussi garder le même effectif. À City, quand même, officialisation de Joao Cancelo, on en a parlé hier. Signature à venir de Félix Correa. C'est un jeune ailier, c'est un espoir, purement un espoir. On peut pas l'imaginer titulaire demain, mais arrivé du Sporting, il a 18 ans. À voir si dans l'esprit des dirigeants de Manchester City, c'est un peu le remplaçant de Leroy Sané qui est toujours annoncé au Bayern, même si on n'a pas d'évolution sur ce dossier. Et puis Liverpool, simplement, je voulais vous lire cette explication de Jürgen Klopp à la raison pour laquelle il n'y a pas de mouvement. Ils ont pris simplement deux jeunes à Liverpool. Il n'y a pas eu de transfert majeur.
C'est intéressant de Klopp là-dessus.
Mais elle est rigolote, alors ça, en tout cas son explication. Ce qui est nouveau et considéré comme excitant, c'est comme avec une nouvelle voiture. Votre ancienne voiture est totalement fiable, mais vous en avez une nouvelle, vous en voulez une nouvelle, et deux semaines plus tard, elle tombe en panne. Ça a l'air mieux, mais ce n'est pas forcément bon.
Bon, après, une nouvelle bagnole,
c'est un peu
bagnole,
une métaphore filée à la Daniel
hein,
Riolo,
ouais.
quoi.
Hein, ça tombe voilà, pas toujours en panne, une voilà, nouvelle bagnole.
Non, mais ouais. je trouve que cet entraîneur, cet homme, il est vraiment, c'est quelqu'un plus. Vraiment de raisonnable. Tu vois, il se dit bon, je viens de gagner la Coupe d'Europe avec mon équipe. J'ai encore, ils ont encore toutes leurs capacités. Il a quand même une profondeur de banc qui est avec Shaqiri et d'autres qui est quand même intéressante. Non, je trouve que c'est plutôt raisonnable. Comme Zidane l'avait fait aussi à un moment donné. C'est pas toujours la course au transfert à qui va avoir le plus,
tant
le
que
moins.
Tu maîtrises et que tu voilà. sais si ton effectif a encore faim. Si t'es joueur, tu sens qu'ils peuvent être encore maintenus sous pression. Parce que Liverpool reste quand même sur deux finales de Ligue des Champions. Une perdue, une gagnée. Un titre qu'ils n'arrivent pas à obtenir, mais qu'ils accrochent jusqu'au bout. S'il sent qu'il a pas besoin de sang frais, c'est à lui, en fait, de le sentir. Il n'y a pas d'obligation à recruter, à faire partir des mecs. C'est toi. Alors, quelque part, ça peut être un risque, mais c'est à lui de l'évaluer. Non, si lui, il sent que les mecs ont toujours la dalle, il n'y a pas de raison de changer le groupe.
Que c'est parfois trop facile pour
faut
les
pas qu'il se trompe.
Trop facile pour les entraîneurs de dire, voilà, je veux 5, 6, 7, 8 joueurs renouveler
oui,
un effectif
si tu peux,
complet.
Tu peux.
Ouais,
si.
Non, mais le rôle de l'entraîneur, c'est, il est aussi de, non, mais Ludo, de faire avec
évaluer,
ton groupe
c'est,
et de.
C'est ton
de,
groupe. Ouais. Qu'est-ce qu'il a encore dans le ventre? Si t'as gagné la Coupe d'Europe et tu sens que t'as certains mecs, ils ont donné le maximum de ce qu'ils pouvaient donner, même s'ils ont été hyper satisfaisants et que c'était vedette. C'est à toi d'anticiper et de pas avoir peur de couper, justement.
Est-ce que être coach, c'est pas justement arriver à se renouveler et à convaincre ces joueurs-là ou à les remettre dans une
fois,
motivation?
Les mecs, quand ils sont dans un aboutissement, parfois, tu peux, inconsciemment, ne plus donner le max parce que t'as atteint une forme de plénitude. Visiblement, pour Liverpool, la plénitude, ce sera peut-être pas la Coupe d'Europe, ce sera ce titre dont ils rêvent tous.
Et tu vois,
si jamais il devait, je pense qu'il veut repartir pour ça. Mais attention, moi je me souviens de Sarri qui avait voulu absolument avec les mêmes mecs en essayant avec une sorte de pacte secret, personne ne bouge au moment où beaucoup de ses joueurs à Naples étaient sollicités. On y va avec les mêmes. Il n'avait pas réussi dans cette histoire-là au bout. Et ne pas avoir voulu renouveler l'effectif, ne pas avoir porté de sang frais sur cette année-là, il avait joué le titre. Sur l'année d'après, les mecs n'avaient pas pu partir ou il n'avait pas pu renouveler comme il voulait, alors qu'il aurait pu le faire l'année d'avant. Et finalement, Naples avait un petit peu régressé par rapport aux premières années de Sarri. C'est à l'entraîneur de faire attention à ça.
On continue avec les news en Angleterre et des nouvelles folies pour Everton qui décidément est vraiment l'animation de ce mercato en Angleterre.
Ouais, et puis qui, Daniel, tu le disais hier, est un club à blé et c'est vrai qu'on l'oublie. Wilfried Zaha, ça se confirme. Everton est prêt à mettre énormément d'argent, 75 millions d'euros d'après Sky Sport. Zaha a même transmis, ils ont foutu un peu le boxon dans cette histoire.
C'est l'attaquant de Crystal Palace.
Il a
mis 20 buts dans la saison. Combien?
Il a mis 11 buts de mémoire.
Il a mis 11 buts.
Ouais, je l'avais hier la stat. 33 matchs, 11 buts.
Ouais, c'est ça. L'Angleterre, ça s'envoie en l'air. Hein. Chez nous, ça vaudrait 40. En Angleterre, ça vaut.
Il nous l'achèterait 75 aussi. Hein, t'inquiète pas. Hein. En tout cas, ça a un peu mis le boxon dans cette histoire parce que Zaha, il a transmis une demande de transfert à son club. Il a demandé à Crystal Palace. J'estime que la somme est largement suffisante. Transférez-moi quoi. Ce qui est pas complètement faux pour le coup, même si c'est pas lui qui décide de son avenir. Il y a également à Everton des tentatives dans le secteur défensif. Ils ont essayé de faire Chris Smalling en prêt, le défenseur de Manchester United. Depuis que Maguire est arrivé, ils se sont dit il y a peut-être une opportunité à faire ici. Ça a été refusé par Manchester United. Et puis, ça se passe en ce moment, hein, tentative pour Nathan Ake, d'après le Sun. C'est Bournemouth qui est propriétaire de ce joueur et il voudrait environ 75 millions d'euros, eux aussi.
Mais c'est
le chiffre à la mode, 75 millions d'euros.
C'est pas surprenant parce qu'on parlait de Liverpool juste avant. Eh oui, et on oublie aussi que la rivalité elle est proche entre ces deux clubs là et que
sémantiquement c'est un vrai derby.
Ouais, là c'est un vrai derby pour le coup. et que Everton, bah, malgré tout, ils sont dans l'ombre depuis que Liverpool, ouais, là, ouais, ça fait quelques, ouais, années qu'ils sont en pleine lumière.
Ils ont toujours été, hein,
nombreuses années.
Oui, ouais, mais bon, on va dire que là, encore plus que d'habitude, donc.
Ah, mais pour en revenir,
ça me paraît assez normal, parce qu'ils ont un peu d'argent, ils essayent de sortir un peu du bois.
Pour en revenir à Wilfried Zaha. Ouais, mais attention, tu sais, ces clubs en Angleterre, là, un petit peu, on va dire, de second chapeau, souvent, ils ont eu l'habitude de claquer un blé de dingue, sur des joueurs qui visiblement, et ça s'est avéré, n'en valait pas autant. Et il y a des dépenses comme ça, oui, on a raison de dire que c'est inconsidéré, parce que quand tu vois ce que ça donne derrière, là en l'occurrence,
Wilfried Zaha, oui, c'est une valeur sûre, hein, quand même.
Bah, valeur sûre, le gars il est pas jeune quand même, hein, tu vois, il a 26 ans, il a jamais mis plus de 10 buts dans sa vie. 10 buts, c'est son record à Crystal Palace.
En étant à Crystal Palace.
Avant c'est 9, 7, 2, 4. Ah bon. À un moment, sur 4-5 saisons, si au moins tu arrives à 15 buts, ouais, tu te dis que tu es un vrai buteur. 10 buts, c'est son top en 34 matchs l'année dernière.
C'est 10 alors, ouais.
Ouais. Mmh. Bah, après, ils font ce qu'ils veulent de leur blé, hein, mais on n'est pas, je crois pas qu'on soit en présence d'un crack, quoi.
On va continuer avec quelques mouvements. Bref, Emil Kraft devrait rejoindre Newcastle, Jordan.
Ouais, le suédois de Damien, il a 25 ans, il va passer sa visite médicale dans les prochaines heures, enfin demain en l'occurrence. 5,5 millions d'euros environ pour Amiens. C'est quand même un beau coup, ça, pour les Amiennois. Il a disputé 35 matchs de Ligue 1 la saison dernière, il va falloir le remplacer. Mais ils font une belle vente. 5,5 millions d'euros pour Amiens, c'est assez rare.
Pour revenir sur Zaha, ce qui est bien aussi en Angleterre.
Aucun intérêt pour Emil Kraft.
Non, mais par rapport à la première ligue, ce qui fait que ça tourne bien aussi, c'est que souvent ils s'échangent. Il y a beaucoup de joueurs qui partent. L'attaquant d'un petit club va dans un club moyen, l'attaquant d'un gros va dans un ou d'un. Voilà, en tout cas, ils se refilent les joueurs, ce qui fait que l'économie. Ça permet de faire
circuler l'argent.
Et ce qui fait aussi la force du championnat anglais et qui, alors au-delà des droits TV, mais voilà, l'argent circule assez facilement. Et du coup, les joueurs aussi.
Danny Welbeck a signé à Watford.
Ouais, Danny Welbeck libre depuis la fin de son contrat avec Arsenal. Ça a été officialisé par Watford. On n'a pas la durée du contrat. Il a 28 ans, Danny Welbeck.
Leicester va recruter Dennis Praet.
Ouais, c'est une info du Guardian. Milieu offensif belge, Dennis Praet va quitter la Sampdoria et signer un contrat de 5 ans donc avec Leicester. Un transfert estimé quand même à 20 millions d'euros.
Et Brice Samba va quitter Caen pour Nottingham Forest.
Ouais, le gardien de Caen qui va signer 4 ans, il a 25 ans, il sera entraîné donc par Sabri Lamouchi à Nottingham Forest. Et Caen l'a déjà remplacé, ils ont annoncé son remplaçant il y a quelques minutes, Rémi Rioux qui a signé pour 3 ans, il arrive de Charleroi, Rémi Rioux.
Voilà pour la page anglaise, sachez que demain dans l'after, on vous réserve une grande page sur le mercato anglais puisque le mercato aura été bouclé à 18h. On rappelle que les clubs anglais peuvent acheter des joueurs jusqu'à demain 18h et ils peuvent en vendre jusqu'à la fin du mois d'août, petite spécificité.
Et en parlant
cette année
de mercato, là, on n'entend pas parler d'Atem Ben Arfa.
Non.
Lui qui refuse Rennes, enfin de rester, enfin oui, de ce qui s'est passé, oui, mais on n'entend pas parler de lui,
parce
là.
Que l'Europe
il est libre,
se la rage, et il ne sait pas trop encore. Il attend le 31 août pour décider s'il y a trop de propositions.
Il a trop de choix.
Apparemment, il avait une petite cote du côté de Gênes avec la Sampdoria et le Genoa qui étaient intéressés. Mais enfin, il n'y a pas eu de confirmation.
J'ai vu, hein, il était en tribune avec Valdemar Kita. Moi, je me suis dit, putain, il va le gros coup des Nantais.
C'était contre le Genoa.
Ah oui,
il était. C'était contre le Genoa. Oui, apparemment, il aurait rencontré les.
Voilà.
Mais bon, on n'oublie pas la Ligue 1. Pedro Rebocho aimerait rejoindre Mallorca.
Ouais, info RMC Sport, promu en Ligue 1 à Mallorca. Rebocho qui a été approché à plusieurs reprises par des clubs français cette année. Il a envie d'aller à Mallorca. Pour l'instant, il n'y a pas d'accord avec Guingamp. Les négociations sont autour de 5 millions d'euros pour Rebocho.
Et puis d'autres infos à l'étranger en bref et rapidement avec notamment l'appel à l'aide de Lewandowski au Bayern.
Ouais, ça, je voulais votre avis quand même. Hein. Il veut au moins 3 joueurs, Lewandowski. C'est-à-dire qu'il parle comme un directeur sportif, un peu Robert Lewandowski. Il a fait une sortie au média Bild. Il a dit en attaque, nous avons perdu 3 joueurs, Ribéry, Robben, James. Pour l'instant, nous n'avons aucune nouvelle recrue pour ces postes. Même si Sané vient, nous avons besoin d'un autre ailier. Jouer toute une saison avec 13 et 14 professionnels expérimentés, ça va être dur. Uli Hoeness et Karl-Heinz Rummenigge connaissent mon opinion.
On ne peut pas lui donner tort là-dessus.
On ne peut pas lui donner tort parce qu'il a sa place. Il s'exprime quand même.
Oui, ouais. Après, l'autre jour, je ne sais plus quel soir, j'ai dit bah ça devait être lundi, j'ai dit il serait temps que le Bayern claque un peu d'oseille. Sur le coup, c'était un peu con de dire ça parce qu'ils en ont claqué sur des défenseurs, j'avais jamais mis autant sur un joueur.
Et les bouclés en décembre.
Voilà. Donc ils en ont sorti de l'oseille. Et maintenant
ils vont bouger, c'est sûr.
Maintenant, ça veut pas dire qu'il devrait pas, comme le dit Lewandowski, recruter devant, parce que je pense que là, il y a un manque.
Lui, Lewandowski, c'est.
Bah, il attend les ballons, quoi.
Et son compteur but, il dépend aussi des passeurs.
Pour l'instant, il est servi par Gnabry et.
Tu re-signes?
je re-signe.
Au Bayern
Non, parce que Ludo, il s'occupe déjà de Nantes.
Lewandowski
pour il est déjà pattes. Adjoint de Nantes. Il peut pas tout faire.
C'est même au pic de ma carrière, je pense que j'étais loin de pouvoir signer au Bayern.
Ludo, en fait, t'as contacté Kita?
Pas encore, mais ça va venir.
Allez, on a la
démarre. Appelle-moi, j'ai son numéro. Deux infos en bref pour terminer, ouais. Andy.
Un défenseur qui arrive à Milan. Ils ont fait Théo Hernandez déjà en défense, le Milan AC. Ils officialisent Léo Duarte. C'est un défenseur brésilien, 23 ans. Il jouait à Flamengo, il s'est engagé 5 ans. On peut considérer ça comme un pari. Et puis il y a Memo Ochoa, intéressant. On s'en souvient, notre attachement quand il était à Ajaccio. Il retourne au Club América. C'est là qu'il avait démarré. Il était au Standard de Liège l'année dernière. Il a 34 ans. Il va signer un contrat de 4 ans au club mexicain.
Merci beaucoup, Angie, pour ce tour très complet, très exhaustif de l'actualité à transfert et pour ce mercato chaud. On revient dans un instant, vous parlez de l'Olympique Lyonnais. Il y a eu la première conférence de presse à J-2 du premier match de la saison de l'OL. On en tirera les enseignements avec notamment les informations d'Edouard G. A tout de suite.
RMC, l'After Foot.